jusqu'au 25. Je vous invite aussi à ouvrir vos Bibles. On ne va pas tous les lire. J'espère que vous les avez tous lus. Super. Alors, ça fait un trimestre que l'on est dans le livre de Matthieu. Et donc, c'est une continuité. Donc, j'aimerais très succinctement aussi rappeler ce que Jean-Hé nous a apporté la dernière fois. Alors, ce n'est pas du tout exhaustif, hein, mais juste pour faire un peu de lien à ce sur quoi je vais poursuivre aujourd'hui. Donc, Jean-Hé, dimanche dernier, a partagé sur les chapitres 19 et 20 de Matthieu. Et il a commencé son message en montrant comment Jésus prenait de la hauteur face au piège qui lui était tendu par les pharisiens et d'autres, et notamment sur la question qui lui était présentée par rapport à la lettre de divorce. Est-ce qu'un homme peut divorcer, etc. Moïse nous a montré qu'il pouvait écrire une lettre. Et là, Jésus, de suite, il place les choses à un autre niveau. Il va repositionner vraiment les choses. Il va renvoyer au Créateur comment il a prévu les choses initialement, comment c'est le Dieu qui unit, que disent les Écritures et ce qu'il en est dans le royaume de Dieu. Voilà. Donc, déjà, boum, il y a une autre dimension. Il ne se focalise pas sur le détail dans lequel les pharisiens veulent le conduire, mais il rappelle l'ordre divin. Et il dit même que tous ne peuvent pas accepter ce message. Il dit que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Et là, Jean nous a encouragés sur le fait que nous avons besoin de voir Jésus afin de le suivre comme des disciples. Nous avons besoin de le voir. Je souligne vraiment cet aspect-là. Il a terminé son message par le dernier miracle mentionné au chapitre 20, où Jésus ouvre les yeux de deux aveugles qui étaient là au bord du chemin et qui criaient « Jésus, fils de David !» Donc, il y avait quelque chose de bon déjà. Il reconnaissait la messianité de Jésus, mais il ne le voyait pas encore. Et ils étaient incapables de le suivre. Et là, Jésus, pris de compassion pour eux, leur touche les yeux. Et c'est là que je commence aujourd'hui. S'il fallait donner un titre, j'aurais envie de dire « M'as-tu connu? M'as-tu vu? » Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Aussitôt. Et ils le suivirent. Et on a besoin de recouvrir la vue pour suivre Jésus. Jésus va dire à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Et là, il va reprendre même Philippe qui lui répond, mais quand peux-tu nous montrer le Père? Et Jésus, il lui dit, mais tu es avec moi depuis tant de temps et tu n'as pas vu le Père? J'y reviendrai à la fin de mon message. J'aimerais juste m'arrêter et prier avant de poursuivre. Père, je te prie vraiment d'ouvrir nos yeux en esprit afin de comprendre, afin d'entendre, afin de voir qui tu es. Je te prie de nous donner du discernement, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence, de renouveler notre mentalité, de renouveler notre intelligence selon ta parole et ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute pensée vraiment soit emmenée captive à ton obéissance, Seigneur. Cette guérison des deux aveugles, c'est le dernier miracle qui est mentionné dans ce passage avant l'entrée de Jésus, merci, dans Jérusalem. Et je trouve ça fort. Et pour recontextualiser rapidement, c'est les tout derniers jours qui précèdent la crucifixion de Jésus. Et tout ce qu'a fait et dit Jésus est important, je n'ai pas envie de mettre d'échelle de valeur. Mais quand quelqu'un est sur le point de mourir, ses dernières volontés, on les écoute particulièrement. On y prête une attention toute particulière. Quand je suis à côté d'un proche, je me souviens mon grand-père, quand j'étais à côté de son lit, ben les derniers psaumes qu'on a pu lire ensemble, je m'en souviens comme si je les avais lus ce matin, les dernières paroles qu'on a pu échanger, je m'en souviens tout particulièrement. Et cette période-là, de cette semaine sainte qui précède la crucifixion de Jésus, la Pâque à Jérusalem, il faut vraiment se réimaginer tout ce contexte. Il y avait une foule de monde qui venait, tous les Juifs qui venaient, qui étaient même dans d'autres nations, qui étaient là à Jérusalem pour célébrer la Pâque, cette libération de l'esclavagisme qu'ils avaient en Égypte. Et quand Dieu les a libérés, les a conduits à travers le désert et jusqu'à dans le pays de Canaan. Donc voilà, on est dans ce contexte-là, très rapidement. Et là, vous savez, Jésus, il avait déjà fait ce reproche aux pharisiens, aux responsables que Dieu avait établis sur le peuple d'Israël. Et il leur avait dit « aveugle, conducteur d'aveugle ». Et Jésus, c'est frappant comment à chaque fois qu'il fait des miracles dans le matériel, ça révèle une réalité spirituelle. Et il montre par le matériel l'autorité qu'il a pour agir dans les lieux célestes, pour agir dans l'invisible. Mais les deux sont très liés. Et quand il leur dit « aveugle, conducteur d'aveugle », là Jésus, il va dire « moi, je suis le leader capable de les conduire. Et pour vous montrer que je suis capable de les conduire, j'ouvre les yeux aux aveugles. » Donc déjà, aux aveugles, il rend la vue, et par là aussi, il nous montre qu'il est capable de nous conduire. Alors ce matin, déjà, par tout ce qui a été dit, j'ai un tapis qui est déroulé devant moi pour parler notamment des œuvres, parce qu'il est beaucoup question d'œuvres dans ces chapitres qui vont suivre. Mais il n'est pas question d'œuvres sans maître. Et c'est surtout de lui dont il est question. Du maître que l'on sert, c'est à lui que reviennent ses œuvres. Et c'est lui qui les dispense. Il a préparé ses œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce n'est pas le thème de mon message, mais juste une très courte parenthèse. Ne soyons pas, peureux de pratiquer les œuvres. Enlevons toute connotation légaliste et de bonnes œuvres. Les œuvres sont bonnes quand elles découlent de l'abondance de la grâce de Dieu qu'on a connue. Mais c'est absolument pas, il n'est absolument pas question des œuvres pour le salut. Ça, c'est du légalisme. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est les œuvres qui découlent du salut et de la grâce de Dieu. Alors, au chapitre 21, on voit Jésus qui entre dans Jérusalem et monté sur le dos d'un ânon. Alors, c'est une prophétie qui avait été donnée par Zacharie, et je vais la lire dans Zacharie 9, au verset 9. « Tressaille d'allégresse, ô communauté de Sion, pousse des cris de joie, ô communauté de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et sauvé, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. L'arc qui sert pour la guerre sera brisé. Ce roi établira la paix parmi les peuples. Sa domination s'étendra d'une mer jusqu'à l'autre et depuis le grand fleuve jusqu'aux confins du monde. » Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire, même sur cette symbolique où il vient sur l'âne. Mais déjà, alors, il y a tout cet aspect de l'humilité, mais jusqu'au temps de David, les princes montaient des ânes, des ânons. C'est à partir de Salomon où le cheval a été davantage introduit, mais plus dans une optique de guerre. Et là, Jésus ne vient pas comme roi guerrier, mais il est vraiment révélé comme ce Messie, roi, mais toujours plein d'humilité. D'ailleurs, dans ce passage de Zacharie, il est dit « Je ferai disparaître du pays d'Éphraïm tous les chariots de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. » Donc là, il est dit qu'il vient sur un ânon, il ne vient pas sur un cheval de guerre. Et pour autant, il vient avec tellement, tellement d'autorité. Dans les passages qui suivent, ça m'a vraiment frappé. Alors, petite parenthèse de plus, j'avais commencé à préparer les chapitres 24 et 25. C'était ceux un petit peu qui m'avaient été attribués. Et j'avais vu que les chapitres 21 à 23 avaient été sautés, intentionnellement ou pas. Et je m'étais gardé de le dire parce que les chapitres 23 et 24 m'intéressaient bien. Et dimanche dernier, j'ai attendu la fin du message pour dire à David « Ah, t'as vu, on a oublié les chapitres 21 à 23. » Mais maintenant, je ne change rien. C'est trop tard, ne me demandez pas de changer. Et en fait, l'après-midi, le dimanche après-midi, quand je les ai lus, j'ai commencé à les lire et j'ai dit « Seigneur, écoute, donne-moi ce que toi, tu veux que j'enseigne. » Et j'ai laissé complètement de côté ce que j'avais mis. Donc du coup, je n'ai pas fait de PowerPoint ni rien. J'ai voulu me concentrer quand même sur ce que Dieu me mettait à cœur et je souhaite vraiment vous transmettre ça. Donc, je vais forcément sauter des passages qui sont des perles aussi. Clairement, il y a énormément de choses à dire. Il y a 5 chapitres. Donc, ne m'en tenez pas rigueur, mais je vais surtout essayer de montrer ce fil qui est déroulé dans ces 5 chapitres qui était vraiment très intéressant à lire d'un trait. Ça se passe en même temps, sur les mêmes journées. Alors tout d'abord, il va être question du temple. Jésus entre dans la cour du temple à partir du verset 12 du chapitre 21 et il enchasse tous les marchands. On a déjà eu des enseignements sur ce sujet, mais là, Jésus, il montre déjà son autorité en rappelant que c'est sa maison. Il dit « c'est ma maison ». On appellera ma maison une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de brigands. Qui est le plus à même de dire, de rétablir l'ordre que celui qui a autorité sur une maison ? Si quelqu'un vient chez moi, même un ami que j'apprécie, et qu'il commence à dire à mes enfants ce qu'ils doivent faire, etc., même si c'est le bazar, il n'a pas autorité. Il peut venir me conseiller, me dire « Écoute, Samuel, tu pourrais peut-être diriger ta maison autrement, mais c'est à moi de la diriger. » Là, Jésus, il vient et il dirige la maison de son Père. Il dirige sa maison. Et là, vraiment, il affirme déjà son autorité. Et vraiment, voyons Jésus dans cette dimension d'autorité. Il rappelle aussi quel est le vrai sens des sacrifices du temple et que ce n'est pas au sacrifice que Dieu prend plaisir, mais que c'est à la miséricorde, etc. Et là, dans la cour du temple, alors tout ça, on va voir jusqu'à peu près au chapitre 23, tout se passe dans la cour du temple. Et là, il va guérir des aveugles et des paralysés. Et il y avait une note très intéressante en bas de page, et c'est vrai que je n'avais jamais remarqué, en tout cas pas fait le lien avec ça, que les personnes qui avaient des défauts physiques n'étaient pas aptes au service. Et là, dans la cour du temple, ces personnes qui ne pouvaient pas aller plus loin, alors il y avait très clairement les Lévitiques, il y avait tout un ordre établi, hein, ce n'était pas tout le monde de toute façon, je dirais, qui était sain de corps, qui pouvait être habilité à servir. Mais ce critère-là était disqualifiant, je dirais. Et ces paralytiques qui sont là dans la cour du temple, ils les réhabilitent dans leur corps. Et j'y voyais vraiment cette dimension aussi de service où Jésus, et c'est ce qu'on va voir dans toute la suite, il est capable d'ôter ou de donner le sacerdoce, c'est-à-dire la capacité, le mandat pour servir. Et d'ailleurs, il va être instauré là le sacerdoce universel. Dans la nouvelle alliance, nous avons ce que nous appelons le sacerdoce universel et ce qui distingue d'ailleurs d'autres positions doctrinales. Et ce n'était pas forcément le cas dans l'ancienne alliance. Il y avait des personnes vraiment définies pour offrir les sacrifices, pour servir dans le temple. Les questions d'un royaume de rois et de prêtres, comme il est dit dans l'Apocalypse, pour Dieu notre Père. Des prêtres qui sont choisis non pas selon une lignée humaine ou selon des aptitudes physiques, mais choisis par Dieu, choisis par Christ, équipés par lui-même. Alors, le lendemain, Jésus revient et sur la route, vous connaissez tous cette histoire du figuier, où il s'arrête devant un figuier. Et là, sur ce figuier, pas de figue. Pauvre figuier, il va en payer les frais. Et bien souvent, et c'est pas faux, c'est pas voilà, mais j'ai vu cette parabole exclusivement dans la dimension d'un enseignement sur la foi. Et je vais y revenir tout à l'heure sur cette parabole du figuier à la lumière des paraboles qui vont suivre. Au verset 23 et suivant, on voit que l'autorité de Jésus est contestée par les pharisiens. Donc, hop, je reprends ce passage. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellent. Par quelle autorité agis-tu ainsi ? Qui t'a donné l'autorité de faire cela ? Jésus leur répondit, « Moi aussi j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. » De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? Et donc là, forcément, il les met devant un dilemme et ils sont obligés d'avouer soit que Jean exerçait bien son ministère par l'autorité de Dieu, et dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas reconnu son autorité ? Soit ils nient que Jean exerçait son autorité de Dieu et au risque de se faire huer, voire pire, par la foule. Parce qu'il y avait une foule qui avait vraiment suivi Jean pendant son temps de ministère. Et donc là, Jésus, il dit « moi non plus », parce que ces personnes-là ne répondent pas à Jésus, ils ont bien compris qu'ils étaient dans une posture difficile. Et Jésus leur dit « moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses-là ». Jésus n'est pas redevable envers les hommes. Je crois que c'est quelque chose de très important. Il a choisi de nous rendre participants dans son service, dans son royaume, mais il n'est pas redevable envers nous. Il nous a donné sa vie, mais il ne nous doit rien. Et quand il y a des choses qu'on ne comprend pas, je crois qu'il faut aussi avoir l'humilité de s'approcher avec lui avec humilité, lui demander de nous ouvrir les yeux, mais on n'a pas toujours toutes les réponses à tout, et il n'est pas tenu de nous donner toutes les réponses. Il y a des temps, il y a des choses qu'il garde pour d'autres temps aussi. Hop. Au verset 28, et là on va commencer à rentrer davantage dans la thématique que je voulais mettre en évidence, il est question de la parabole des deux fils. « Que pensez-vous de l'histoire que voici ?» ajouta Jésus. « Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. »« Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, mon seigneur, j'y vais. » Mais il n'y alla pas. Lequel a fait la volonté du Père. Et là, Jésus, il dit que les collecteurs d'impôts et les prostituées précéderont les autres dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu pour montrer ce qu'est une vie juste. Mais, donc là, il s'adresse aux pharisiens, enfin aux responsables du peuple. Mais vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener à croire en lui. Ensuite, il va être aussi question de cette parabole de la vigne et des vignerons. Je ne vais pas la lire en entier parce que c'est un peu long et comme dit, il y a 5 chapitres. Mais là, il est question d'une vigne qui est plantée par un propriétaire et il l'équipe complètement. Donc bien sûr, il plante la vigne, il établit une haie de délimitation, un pressoir, une tour de guet, tout ce qu'il faut. Je me dis déjà, il avait le souci de faire les choses bien. Il avait pourvu à tout. Et ça devait être un domaine suffisamment important parce que pour construire un pressoir et mettre en place une tour de guet, c'est qu'il y avait quand même un vaste domaine. Donc, ça nous en dit un petit peu sur l'importance de cet homme. Et il va appeler des vignerons pour s'occuper, pour gérer cette vigne et rendre le fruit qui lui revient au propriétaire au moment venu. Et donc, c'est sa vigne, c'est sa propriété. Deux, il a pourvu à tout. Troisièmement, il vient récupérer son dû. Et quatrièmement, on voit que Dieu juge. Et ça, on ne peut pas l'enlever même de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas possible. Dieu est notre Père. Jésus même, il est dit qu'il est notre frère, voilà, qu'il est notre avocat, etc. Mais on ne peut pas exclure le fait que Dieu juge. Alors, soyons bien clairs, là encore, une fois qu'on est en Christ, qu'il a payé pour nous, il ne s'agit pas du jugement pour savoir si on passera ou non l'éternité avec lui. Quand on appartient à Dieu, ce jugement-là, je dirais, c'est bon. Mais Dieu reste le Dieu qui juge. Et d'ailleurs, nos œuvres, c'est très clair, c'est dit qu'elles seront emmenées en jugement. Et alors, au verset 42, Jésus ajouta, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là s'y brisera la nuque et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchaient un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète. » Alors, j'aimerais apporter une petite précision à ce que je vais dire. On va parler, là, il est question de Christ qui prononce ce jugement qui, je pense, avait déjà été acté par le Père et il vient l'affirmer sur les conducteurs du peuple d'Israël qui ont été trouvés infidèles. Ce jugement-là, ce n'est pas nous qui le prononçons. Ce n'est pas à nous qui l'appartient. Nous, c'est vrai, il nous est raconté pourquoi, comme il est dit plus loin dans la parole, toutes les choses qui ont été écrites sont là pour notre instruction. Et elles sont là comme un avertissement aussi pour nous. Elles ne sont pas là pour que l'on condamne nous-mêmes ces conducteurs qui ont été trouvés infidèles. On n'est pas là pour dire Israël est exclu du plan de Dieu. Non, c'est surtout pas mes propos. Mais par contre, je ne veux pas passer à côté dans ces passages-là de ce qui est clairement dit au sujet de ce sacerdoce. On voit clairement que Jésus, il prononce la fin d'un temps et pour des personnes qui n'ont pas été trouvées fidèles. Et je reviens sur la parabole du figuier et même sur un passage qui s'était produit, sur un miracle qui s'était produit des temps avant. Souvenez-vous, quand Jésus il est dans une maison pleine de monde, impossible de rentrer, c'est vraiment blindé. Et là, il y a un paralytique qui est sur un lit et ses quatre amis le montent sur le toit, ils enlèvent les tuiles, etc. et ils le descendent à Jésus. Et Jésus, la première chose qu'il va dire, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». Et les responsables du peuple, les pharisiens qui sont là, les religieux, ils grincent des dents et ils murmurent entre eux, ils disent « mais qui ?» Il n'a pas l'autorité pour pardonner les péchés. Et Jésus, il entend ce qu'il dit, il entend leur cœur et il leur dit, regardez, pour que vous, qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Lève-toi et marche ou tes péchés te sont pardonnés ? Alors sincèrement, moi j'aurais plus de facilité à croiser quelqu'un, un paralytique dans la rue et lui dire, tu sais, Jésus t'aime, il pardonne tes péchés. Plutôt que devant peut-être 100, 200 personnes, j'en sais rien, lui dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est pas le même niveau de foi. Et là, Jésus, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Et là, cet homme qui se lève et qui marche. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est ces miracles qui attestent dans le matériel ce qu'il y a dans le spirituel, eh bien, en fait, en lisant ces 5 chapitres d'affilée, l'événement du figuier m'est apparu totalement différemment. Jésus, dans tous ces passages-là, parle du sacerdoce qui est donné ou qui est repris. Et on pourrait dire, mais attends, qui es-tu ? Et d'ailleurs, les responsables du peuple sont venus pour lui dire « Mais de qui tiens-tu ton autorité ?» Et il ne leur répond pas. Par contre, il leur a déjà répondu par l'exemple du figuier. Il leur dit « Le service vous est enlevé. » Il y a ce figuier qui ne portait pas de fruits. Il a montré par là qu'il avait autorité spirituellement pour donner ou reprendre le service. Qu'est-ce qui est plus facile de faire ou de dire ? Figuier, je te maudis au nom de Jésus, ou toi, tu es bon, tu peux servir ou autre. Alors, bien sûr, là, c'est pas nous, l'image a ses limites. C'est pas nous qui habilitons quelqu'un à servir ou pas. Mais pour Jésus, je veux dire, quand il a maudit ce figuier, oui, il y a un enseignement aussi sur la foi, mais je crois que c'est pas seulement ça. Il a déjà démontré le matin là qu'il avait autorité pour dire et pour faire ce qu'il allait faire dans la suite de la journée. Et je trouve ça tellement fort. Il n'a pas juste dit « bon, ben, toi tu peux pas ». Non, il a montré par des choses surnaturelles dans le matériel qu'il avait autorité. Et donc, il dit aussi, « Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. » Et je crois vraiment que Dieu, il attend ces fruits-là. Il nous les a confiés. Il a déjà tout préparé, mais il attend ces fruits-là. Et donc là, au chapitre 22, il y a d'autres paraboles encore qui suivent dans cette pensée et je ne vais pas m'y arrêter. Si vous les avez lues dans ces jours précédents, tant mieux. Et sinon, dans tous les cas, je vous invite à les relire dans cette dimension-là. Je ne peux pas m'y arrêter plus précisément à cause du temps, mais ça me semble important. Encore une fois, alors là, c'est peut-être un peu... Côté professionnel, expert comptable, allez, je m'y arrête sur l'impôt dû à César. Je peux pas passer à côté. Allez, parlons fiscalité. Les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus, afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples, accompagnés de gens du parti d'Hérode. Alors là, déjà, juste pour recontextualiser, vous avez le parti nationaliste, si on peut dire, et le parti extrême gauche qui s'unissent pour venir piéger Jésus. Donc, ils sont dans une telle situation critique, c'est le Front républicain qu'ils essayent de rassembler la plus grande majorité pour trouver à piéger Jésus. Donc, mais rien que ça, je me dis, ils sont quand même dans un désarroi, ils n'arrivent pas à le mettre en défaut. Ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité la voie à suivre selon Dieu. Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. » Donc, il le flatte un peu. « Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Alors évidemment, c'était un piège, parce que si Jésus avait répondu qu'il ne devait pas payer d'impôts à César, il se serait établi, il se serait positionné contre César. Donc, les soucis diplomatiques qui auraient pu se poser, ça aurait donné de la légitimité aux représentants romains pour mettre à mort Jésus. Parce que quiconque s'élevait contre l'empereur méritait la peine de mort. Mais là, Jésus, encore, il ne va pas répondre à leurs questions. Et connaissant leurs mauvaises intentions, il leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. À cet instant, ils sont piégés. Pourquoi ? On est où ? On est dans la cour du temple. Avait-on le droit ? Qu'est-ce qu'il y avait sur cette pièce ? Il y avait l'emblème de l'empereur. Mais ce n'était pas juste une emblème classique, juste un dessin. Souvenez-vous quand même que c'était le culte de la personnalité de l'empereur. S'il y avait cette effigie sur la pièce, ce n'était pas juste pour dire que ça lui appartenait. C'était dans cette dimension du culte et d'idolâtrie à l'empereur. N'était-il pas interdit d'introduire des images, des idoles dans le temple et bien sûr dans la cour du temple? Et là, déjà, le fait, cette personne qui sort cette pièce avec une image d'une idole, ils étaient disqualifiés, même pour remettre en question Jésus. Et c'est vrai que des fois, on est tenté, donc Jésus, il va dire ensuite, « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » Et je ne crois absolument pas ici qu'il est question, premièrement, d'impôts. C'était la question de ceux qui s'étaient unis pour piéger Jésus et n'en tirons pas des conclusions sur le fait « est-ce que tiens, je peux payer cet impôt ou pas etc. » Non, ce n'est pas du tout. Et d'ailleurs, quand il est question de payer des impôts, même une autre fois, quand Pierre vient trouver Jésus et que Jésus l'envoie pêcher et qu'il y a une pièce dans la bouche du poisson, là encore, il ne s'attarde pas sur ces débats-là. Il ne s'y attarde pas. Par contre, ça me fait poser une question. Qu'est-ce qu'il y a dans nos poches ? Qu'est-ce qu'il y a dans nos poches ? Et des cartes bleues. Et je dirais nos œuvres, avec quoi on va les financer ? Avec quoi on va les entreprendre ? Voilà, c'est juste une réflexion que je vous lance. Je poursuis. Je passe au chapitre 23, à partir du verset 37 à 39. Donc là encore, le chapitre 23, et je ne le lis pas en détail, mais Jésus insiste vraiment, il s'adresse aux chefs religieux, aux conducteurs du peuple de l'Ancienne Alliance. Et c'est lui qui a autorité pour prononcer cela. Versets 37 à 39, il est dit « Ah, Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. mais vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». C'est fort quand même, Jésus qui leur dit « Votre maison va être abandonnée et restera déserte ». Mais on voit qu'il y a un temps aussi. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et il y aura un temps où ils reconnaîtront aussi que Christ est le Fils de Dieu. C'est clairement dit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pas qu'il est prophète, mais qu'il est Seigneur. Quand il est entré, j'ai passé là-dessus, sur ce détail, quand il est entré dans Jérusalem, il y avait cette foule qui criait Hosanna, même les enfants jetaient des branches de palmier par terre. La branche de palmier, c'est symbole de victoire, de triomphe. Il en est question déjà dans les prophètes, dans Ésaïe et aussi dans l'Apocalypse. Et quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout, on demandait qui est-ce. Et la foule qui l'accompagnait répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Alors, il reconnaissait déjà quelque chose chez lui. Mais la réponse, ce n'était pas « c'est Jésus, le Fils de Dieu ». C'était « c'est Jésus, le prophète ». Il y avait déjà, il reconnaissait une autorité, mais il ne l'avait pas encore pleinement connu. Il n'avait pas encore pleinement vu. Et là, il est dit « béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et à partir de ce moment-là, dans les paraboles, il va y avoir d'autres paraboles qui vont suivre, mais Jésus ne va plus s'adresser aux conducteurs du peuple de l'ancienne alliance, mais il va s'adresser aux futurs serviteurs. Et là, il y a une transition, mais ça va être un peu sur le même ton. Il y a eu le ton de l'autorité, du jugement qui est prononcé, et après, il va y avoir aussi le ton de voilà sur cette autorité aussi, je te confie ça, mais aussi de l'avertissement, on va y venir. Avant ça, il y a le chapitre 24 sur, on aurait envie de dire, sur la fin du temps. Voilà, il est question de la destruction du temple et de ce qui va se produire, parce que ses disciples avaient fait remarquer à Jésus la belle architecture du temple, etc. Et là, Jésus leur dit, mais ça, tout ça, ça va passer, ça va être détruit. Et donc, ils voulaient en savoir plus. Quand, etc. Il voulait avoir des précisions. Donc Jésus, là, il leur annonce des choses. Et c'est vrai que bien souvent, on est tenté de vouloir savoir même des choses qui ne nous appartiennent pas. Comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des choses qui, pour l'instant, sont tenues secrètes par Dieu lui-même. Même le jour et l'heure du retour de Jésus-Christ, Jésus, il dit, moi-même, je ne le connais pas. Ça appartient qu'au Père. Et donc, ne tirons pas des conclusions un petit peu trop hâtives sur ces passages-là. Par contre, mettons le focus sur les points où Jésus nous avertit. Au verset 4, il va dire « Attention, que personne ne vous induise en erreur ». Là, c'est Jésus qui avertit sur ce que les disciples ils ont à faire, sur leur attitude, et leur dit « Attention, que personne ne vous induise en erreur. » On a besoin de connaître Jésus. Si je connais mon épouse, si quelqu'un vient me dire du mal d'elle ou autre, j'ai confiance en elle, je la connais, et je saurai discerner si c'est vrai ou non, ou si c'est des blasphèmes, des diffamations. Ensuite, au verset 6, il leur dit « Ne vous laissez pas troubler. » Ne vous laissez pas troubler. Là encore, il leur dit « Attention, ne vous laissez pas troubler. » Et dans tous ces événements qui doivent arriver, parce que c'est dans la main de Dieu, je dirais, restons dans cette confiance en Dieu. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Il leur dit « ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas troubler. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Au verset 9 et 10, on voit qu'il est question de persécution. Et je vais les lire. « Alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. » Là encore, je dirais, ça nous concerne vraiment. Face aux persécutions, face aux tensions qui peuvent grandir, de garder confiance en Dieu, de rester dans cette obéissance de la foi. Il est dit au verset 11, « De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. » Et donc là encore, il est question de l'amour qui se refroidira, l'amour du plus grand nombre. Mais tenez bon et persévérez. Continuez de croire en celui en qui vous avez cru, que vous avez connu. Et là encore, j'ai besoin de le connaître pour discerner le Messie des faux prophètes. D'ailleurs, il va leur dire, ne croyez pas ceux qui annoncent que le Messie est ci ou là. Et on, combien de fois, enfin, je veux dire, en l'an 2000, 2012, etc. Et c'est depuis toute l'histoire, depuis l'avènement de Jésus, que son retour est annoncé. Il y a même des sites avec des comptes à rebours, des fois, c'est assez amusant. Donc déjà, vous êtes tranquille quand vous êtes sur ce genre de page Internet, vous savez que ça ne sera pas ce jour-là. Puisque c'est annoncé à une heure précise, il dit c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et si vous croyez avoir reçu la révélation du jour et de l'heure du retour de Jésus, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est clair. Par contre, il nous appelle à avoir du discernement. Ça, ce n'est pas exclu. Au contraire. Au contraire. Et il donne l'enseignement du figuier. Alors, pas celui que j'ai cité tout à l'heure, hein, mais des arbres qui, lorsque le printemps est venu, il y a la sève qui remonte, les branches qui s'assouplissent, les feuilles qui verdissent. Et là, il y a des temps. Et les temps, je crois que... Enfin, ce n'est pas je crois, c'est dit. On doit être capable de les discerner. Ne soyons pas sans intelligence par rapport au temps dans lequel nous vivons. Ne soyons pas, nous laissons pas juste emporter par le flot courant, mais au contraire, sachons discerner les temps dans lesquels nous vivons et sachons aussi garder vraiment en ligne de mire que Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu garde ses temps dans sa main, il garde les circonstances dans sa main et ne nous laissons pas troubler par... Même il était question de famine, de maladie, etc., par rapport au contexte qu'on connaît. Je veux dire, même l'Ecclésiaste, il dit rien de nouveau sous le soleil. Hein. Il y a eu des temps bien pires que ceux dans lesquels nous vivons. Rien de nouveau sous le soleil, et j'ai envie de relativiser un peu, même si la situation est sérieuse, celle dans laquelle on vit, elle est loin d'être désespérée. Voilà. Verset 30, et là je crois que ça, il faut vraiment s'y attacher. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus, il est venu là dans Jérusalem et tout au long de son ministère avec beaucoup d'humilité, avec autorité, mais il a manifesté énormément d'autorité. Il a obéi même jusqu'à la croix. Et c'est par les choses qu'il a souffertes qu'il a appris l'obéissance. Je me demande toujours pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, a dû apprendre l'obéissance. Je crois que c'est vraiment un leader hors pair, c'est clair. Et ça nous en dit beaucoup aussi sur le caractère de leader, de ceux qui veulent aussi aspirer à ces services-là, quel que soit la sphère. Je veux dire, déjà dans la famille, dans un groupe d'amis, quand tu es en position d'influence, quel que soit le cercle, je dirais, inspire-toi vraiment du caractère de Christ. Mais là, il va revenir avec puissance et gloire. Au verset 42, il nous dit « Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour le Seigneur viendra. Tenez-vous prêts. » Et là, j'ai envie de dire, mais comment se tenir en éveil? Comment se tenir prêt? Ça consiste en quoi, se tenir en éveil? Ça consiste en quoi, se tenir prêt? Je veux bien rester en éveil, mais qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me semble aussi que les paraboles qui vont suivre nous éclairent dans ce sens-là. Versets 45 et 46, Jésus dit « Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. » Comme lui a demandé, pas comme j'ai choisi, mais comme lui a demandé. « Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. » Il va être question ensuite, on va voir la parabole des talents et des gens qui font fructifier ce qu'ils ont. Et il est, j'ai relevé tout récemment que même le mot « économie », ça veut dire « administrer les biens de la maison ». Ce n'est pas du tout le sens marchand, mercantile et lucratif. Hein. Ce n'est pas ça, le mot « économie ». Et là, il dit « Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. » Et on voit que Dieu il nous fait rentrer dans l'économie de son royaume. Et là, c'est des choses très, très concrètes. Très, très concrètes. Et là, vraiment, on peut parler d'œuvres. Pas des œuvres pour acquérir le salut, mais ces œuvres que Dieu nous confie parce que c'est lui qui nous demande de les faire, parce que c'est lui qui les a préparées d'avance pour que nous, on les pratique. À midi. Et donc là, il va y avoir trois paraboles. Je synthétise un petit peu ce que j'avais à dire quand même pour en garder le contenu. La parabole des jeunes filles vierges, il y en avait cinq qui étaient prévoyantes, qui étaient sensées, qui s'était préparée en vue de la venue de l'époux et qui était prête à attendre, et d'autres qui étaient venues passer sûrement un bon moment pour se réjouir dans cette fête, mais qui ne s'étaient pas préparées. Ensuite, on a la parabole des talents qui sont donnés à trois serviteurs. À l'un, il remet cinq lingots, au deuxième, il en remet deux, et au troisième, il en remet un seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Et là, j'ai envie de dire, ne vous culpabilisez pas, ne nous culpabilisons pas. Je ne suis pas capable de faire ce que David fait. Il a des aisances, des aptitudes dans des domaines que je n'ai pas. Tant mieux, on est un corps. Si tout le monde était une main, j'ai failli dire un pied, je ne voulais pas que tu me prennes mal. ou un pied ou autre, bon, ben, ça serait pas le corps. Et même dans les choses que nous entreprenons et dans les exemples là dont on peut parler, je veux surtout pas qu'on limite à un champ d'action précis. Parce que chacun a reçu selon ses capacités que Dieu lui-même a définies. Et même David, dans un psaume, il dit « Je ne regarde pas à ce qui est trop haut, trop élevé pour moi. » Juste, il va faire la volonté de Dieu. Et ça, je crois que c'est important. On peut aspirer à plus, mais ne nous embarquons pas dans des projets pour faire. Et c'est là où on quitte sa volonté parce qu'on va vouloir prouver quelque chose. On n'a rien à prouver, juste à obéir, juste à faire ce qu'il nous a demandé et en amour pour le servir. Quand il est demandé dans les passages qui précèdent, quel est le plus grand commandement ? Jésus va répondre, d'adorer Dieu et de servir son prochain, de l'aimer comme soi-même. Et là, en fait, on ne peut pas déconnecter les deux. Donc, on a vu que Jésus avait condamné les serviteurs infidèles et qu'il leur avait retiré leur sacerdoce. Mais il nous met aussi en garde au travers de ces paraboles pour que nous ayons du discernement et que nous soyons trouvés fidèles. Et vraiment, j'insiste bien là-dessus. Cet exemple que nous avons, il est pour notre instruction. Il n'est pas pour nous élever, pour qu'on se croie meilleur. Je veux dire, la nouvelle alliance ne dépend pas de nous, elle dépend que de Jésus. Mais tout ça, ça nous est donné pour notre instruction. Et je dirais, on est mis en garde à l'avance. Il y a des traits communs entre ces trois paraboles. La notion de l'attente. On voit qu'il y a un maître qui confie ses biens à des serviteurs et qui va revenir. Mais il y a un temps de latence qui paraît long pour ceux qui sont dans la situation. Et c'est vrai qu'on a envie de dire des fois, mais ça fait déjà 2000 ans, tu as dit que tu reviendrais. On a envie d'en rigoler un petit peu quand même. Jésus revient bientôt, oui, ça fait 2000 ans. Ah, il avait dit dans 2 jours, un jour est comme 1000 ans peut-être. Bon, mais il y a ce temps de latence. Il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont sensés et qui ont été prévoyants et ceux qui se sont laissés embarquer, j'ai envie de dire, dans le flot du monde, qui se sont laissés embarquer dans le courant de la rivière. Il est question d'œuvre, mais il est aussi question de récompense. Et cette notion-là de récompense, n'ayons pas la fausse humilité de l'évincer. On peut espérer ces récompenses. C'est lui qui le dit. On ne le fait pas pour se glorifier, puisque de toute façon, comme on le voit dans l'Apocalypse, les couronnes et les récompenses lui seront jetées à ses pieds. C'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Et donc, ce qui ressort vraiment, c'est aussi voilà, ce maître qui juge et le fils qui est glorifié. À chaque fois, on voit que le maître est glorifié. Et c'est la finalité, je dirais, de toute chose, que le fils et que Dieu soient glorifiés. Alors, il y a tellement, et c'était là-dessus que j'aurais voulu parler initialement, tellement d'enseignements au sujet des œuvres, même de cet anon. Dans Ésaïe 58, il est question de délier les liens de la servitude. L'âne, c'était une bête de somme, comme le bœuf. On voit qu'il y a eu une malédiction sur le travail, à la chute. Et là, Jésus, il vient quoi ? Sur le dos d'un âne qui va être délié de sa servitude pour être emmené dans le royaume de Dieu. Jésus va entrer dans Jérusalem et là se révéler comme Messie roi. Et celui qui était dans la servitude, Jésus l'amène dans son service. Ce n'est pas la même chose, dans le service du royaume. Et il y a tellement à dire sur le service et sur le travail. Et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine prédication quand ce sera le temps. Mais j'aimerais déjà attirer votre attention aussi là-dessus dans vos lectures personnelles. Vraiment que Dieu travaille aussi votre façon de voir ces passages parce qu'il y a tellement à en tirer pour mon quotidien. Très sincèrement, moi personnellement, pendant très longtemps, j'ai eu un gros dilemme en moi, mais presque une schizophrénie entre servir Dieu et aller au travail le lundi matin jusqu'au vendredi soir. Jusqu'à ce que je comprenne que servir, même pour un employeur qui n'était pas croyant, c'était servir Dieu. Et là, je dirais, dans quelle catégorie tu te places de ceux qui sont censés, qui ont toujours en vue le royaume de Dieu et son retour, ou bien juste, voilà, tu prends la voiture, le métro, le bus, le vélo, le lundi matin, tu vas au collège, et hop, tu as oublié ce que tu as entendu, tu perds de vue l'essentiel, et tu te laisses baigner dans le courant. Et vraiment, je veux vous challenger là-dessus, à voir cette dimension-là qu'il y a de tellement profonde dans le fait d'exercer vraiment son service, j'ai envie de dire. J'ai même pas envie de dire le travail. C'est peut-être des mamans qui ont pris des années pour élever leurs enfants ou autre, mais là aussi, ça n'exclut pas des personnes qui sont sans emploi, qui sont au chômage. Ça n'exclut pas. Quoi qu'il en soit, Dieu te confie un service en fonction de tes aptitudes. Et là, je voudrais conclure, quand même, sur le parallèle qu'il y a entre le plus grand commandement que Jésus nous donne en Matthieu, chapitre 22, versets 37 à 40, que je vais peut-être lire rapidement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Jésus, il a prononcé une sanction sur les serviteurs infidèles, mais il n'a pas rayé la loi et les commandements. Au contraire, il nous montre comment, aujourd'hui encore, obéir et remplir la volonté de Dieu qui est déjà exprimée là et qui est résumée dans ces deux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Et ton prochain comme toi-même. Et là, la dernière parabole qui est donnée, il est question justement de ceux qui sont récompensés par Jésus et qui sont mis à sa droite. Et Jésus leur dit, bon et fidèle serviteur. Et eux, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attends, quand est-ce qu'on t'a servi? Et Jésus leur dit, à chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ses plus petits, c'est pour moi que vous l'avez fait. Et inversement, ceux qui sont séparés et qui sont condamnés, ils vont dire, mais Seigneur, tu es un peu dur dans ton jugement. Vous savez, comme celui qui n'a pas fait fructifier ses talents et qui a dit, je sais que tu es un serviteur dur, qui moissonne là où tu n'as pas semé. Ils vont dire, mais enfin, tu es un peu dur quand même, tu nous condamnes, mais on ne t'a jamais vu en train de nous réclamer à boire ou autre. Et là, il leur dit, à chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour eux, c'est moi que vous avez privé, c'est moi que vous n'avez pas servi. Et là, c'est tellement concret. On a pris un temps pour prier pour ces différents projets tout à l'heure, mais je tenais vraiment à honorer toutes ces initiatives qui sont prises par Eric et Marie-Laure, par David, par ce groupe de vie, et aussi pour tous ceux qui sont engagés d'une manière ou d'une autre, que ce soit à la Sevenol, à l'école, mais aussi dans leur travail chaque matin, qui se lèvent chaque matin en ayant cette vision du royaume de Dieu. Et si c'est pas encore, si ça n'a pas été encore une révélation pour vous, vraiment, je prie pour que ça le devienne, que vraiment Christ illumine les yeux de votre cœur, que son esprit vraiment renouvelle votre intelligence pour voir comment, dans le concret, chaque jour, sans rester stéréotypé aux cinq ministères, mais que vous êtes appelés. Nous sommes appelés, je suis appelé à servir Dieu. Ces recommandations, elles sont très fortes. Elles sont très transmises 2 jours avant la crucifixion de Jésus. Comme je disais, ça fait partie des dernières volontés, des derniers conseils qu'il donne très solennellement. Très, très solennellement. Il y a à peu près 28, je ne sais plus, chapitres dans Matthieu. Là, il y en a 5 sur ces recommandations, sur le service. Je trouve ça tellement fort dans la proportion. Pourtant, en temps, c'est 2-3 jours à peine sur le temps de vie de Jésus sur terre. Si j'avais d'autres passages, je ne vais pas les lire. Mais je terminerai par ce verset de Jean 14, verset 8. Quand Jésus, je vais le prendre. Quand Jésus dit à Philippe, il y a tant de temps que je suis avec toi, mais tu ne m'as pas connu. Et j'ai envie de m'adresser vraiment à vous, et peut-être il y en a qui se sentent personnellement concernés, et qui se sentent un petit peu, mais ça fait tant d'années que je marche avec Jésus, mais j'ai l'impression de ne pas encore l'avoir vu dans ce que je fais, de ne pas encore le connaître. Et je voudrais simplement terminer en priant dans ce sens. Père, tu as envoyé ton Fils qui nous a montré la voie vers toi. Tu as préparé des œuvres d'avance. Tu nous as choisis d'avance. Tu nous as élus avant la fondation du monde. Ce n'est pas un hasard qu'on soit là. Ce n'est pas la volonté d'un homme ni de la chair, mais c'est de ta volonté, Seigneur. C'est toi qui nous appelles à ton service, c'est toi qui nous équipes. Et Seigneur, je te prie vraiment d'ouvrir nos yeux afin d'exercer vraiment ce service avec ce joug doux et léger, en partenariat avec toi, dans ton corps, dans ton Église, Seigneur, équipé aussi par les différents ministères que tu as donnés à ton corps pour les équiper en vue de ton service, Seigneur. Je te prie que cette dimension, Seigneur, devienne vraiment tellement concrète dans nos vies, au quotidien, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils te glorifient dans le nom de Jésus. Amen.